auditeurs, auditrices de Radio Capi, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de la Tribune de la Presse que j'ai l'immense plaisir de la présenter avec des confrères et consoeurs journalistes ici au studio et à l'intérieur du pays. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant cette semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au rendez-vous de notre débat, à savoir les nouvelles mesures prises par les autorités de tutelle pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et la convocation des états généraux du secteur de la justice en RDC. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Jacques Kouraïcha, il est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi dans la province du Tanganyika. Bonsoir et bienvenue Jacques Kouraïcha.
Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi, la radio de la paix.
Ferran Toumba, elle est présentatrice de l'émission Objectif Vert, elle est avec nous ici au studio. Bonsoir Ferran et bienvenue dans ce rendez-vous de la Tribune de la Presse.
Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur la radio de la paix.
Notre troisième collègue, c'est Jerry Ngouwa, il est rédacteur en chef du média en ligne APA Média. Bonsoir et bienvenue dans ces rendez-vous de la Tribune de la Presse.
Bonsoir Tati, bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Tati Mapoukou, c'est moi qui ai la présentation de cette Tribune de la Presse. Kéline Kouté coordonne ces numéros sous la supervision de Martin Chebou-Jangwe et Paul Ba Dianyama s'occupe pour sa part de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ce rendez-vous de la Tribune de la Presse.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. À Matadi, au Congo central, vous nous suivez sur la fréquence modulée 102.0 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous hebdomadaire de la Tribune de la Presse. Comme à l'accoutumée, vous avez chacun une ou deux minutes pour commenter un fait d'actualité qui a captivé votre attention le long de cette semaine qui est en train de finir. Et donc, nous allons commencer par vous, Jacques Kouraïcha. Nous rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Dites-nous, Jacques, quelle est la nouvelle qui a retenu votre attention cette semaine qui est en train de finir?
Oui, Tassi, m'a beaucoup. Merci pour la parole. L'actualité, je vais commencer par chez nous, au Tanganyika. L'actualité est restée dominée par l'exploitation illicite de minerais dans les territoires de Nyunzu, où d'ailleurs l'avant-hier, il y a eu une grande manifestation de jeunes creuseurs, mais aussi de la société civile, qui a conduit même à l'arrestation de certains membres de la société civile NDC Chumvia Congo. Mais aussi, il y a l'actualité à Kalemi-Ville, ces inondations avec la pluie, comme vous le savez, la saison pluvieuse passée, Kalemi était inondée et ces situations risquent encore de se refaire parce que tout simplement, à tout moment, quand il y a la pluie, vous allez vous rendre compte que c'est toute la ville qui tremble, c'est toute la ville où ça ne marchait pas. Il y a de l'eau sur toutes les grandes routes, etc. La route qui mène vers l'aéroport, jusque là en danger, parce que tout simplement, il y a la montée des eaux du lac Tanganyika qui continue toujours à monter. Cette situation inquiète la population de la ville de Kalemi et du Tanganyika en général. Et pour terminer cette première partie, Tati, dans les territoires de Kalemi à Kabimba, il y a la société civile qui a décrété la semaine passée de ville morte de 3 jours pour réclamer à la société GLC, la société Great Lakes Cimenterie, la société qui produit les ciments de construire, de prendre en considération les cahiers de charges signés entre cette société et le gouvernement congolais et la population. Donc, notamment, donner les courants utilisant l'usine, donner ces courants à la population, que la population puisse aussi bénéficier de ces courants à Kabimba, réhabiliter certaines routes de cette agricole, mais aussi dans la cité de Kabimba, mais aussi mettre en place un dépôt de ciment pouvant permettre à cette population de se procurer les ciments à moins cher. C'est inconcevable qu'un ciment produit à Kalemie, à Kabimba, 60 km de Kalemie, soit payé à 34 000, pendant que le ciment qui quitte Tanzanie, il est payé à ce même prix à Kalemie. Voilà pourquoi la société civile, a appelé l'usine GLC de prendre en considération la population. Écoutez, nous sommes des Kalemie, nous devons être les premiers bénéficiaires de ce ciment à un prix abordable.
Merci beaucoup Jacques Kouraïcha, nous vous gardons en ligne et rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemie dans la province du Tanganyika. Je retourne ici au studio, Ferran Toumba, vous êtes journaliste, présentatrice de l'émission Objectif Vert. Quelle information qui vous a le plus marqué durant cette semaine qui est en train de finir?
Alors, merci beaucoup Tati pour la parole accordée. Donc, je redis une fois de plus bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent présentement. Alors moi, en environnementaliste, bien sûr, et ce qui a retenu mon attention cette semaine, c'est le lancement d'un forum qui a réuni plusieurs jeunes sur la question climatique. Alors, c'était la 4e édition du projet qu'entendait par là les forums des jeunes sur le climat, qui se sont appesantis sur les opportunités qui manquent aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes n'ont pas de formation sur les questions climatiques. Aujourd'hui, quand on parle COP qui va s'ouvrir, vous le savez,
le 11 novembre prochain,
les jeunes ne connaissent pas toujours ce qui va se dire là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer à ce genre d'activité? Voilà, quelles sont les retombées? À quoi s'attendre, en fait? Alors, je pense que ces forums étaient l'occasion pour les organisateurs, les gens de la société civile, bien sûr, d'informer suffisamment le jeune quinois congolais sur les questions climatiques et avoir leur appropriation des questions climatiques pour qu'ils puissent s'impliquer, proposer des projets. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle économie du climat, que les jeunes puissent proposer de projets bancables dans ce sens, des initiatives dans ce sens pour pouvoir saisir tous les financements qui sont dans ce sens-là. Alors, parlons de l'actualité justement. Il y a cette actualité qui m'a également intéressé, c'est celle de la réélection, si vous le dire comme ça, de Donald Trump aux États-Unis. On sait que c'est un climato-sceptique. Et donc, les gens de la société civile et tous ces amoureux de l'environnement, ces passionnés, ces gens qui combattent au fait pour que l'accord de Paris soit appliqué, craignent le pire avec l'avènement de cette réélection.
Parce que lui, maintenant, c'est retiré.
Tout à fait, comme l'a fait Bush avec celle de Tokyo. Donc, c'est ça, au fait, qui, moi, a retenu mon attention pour la semaine qui est en train de s'achever. Merci.
Surtout par rapport au forum sur le climat, parce que là, on est dans la transition écologique. On est un pays qui a beaucoup de potentialités en termes de la conservation de la nature,
en termes de biodiversité,
en termes de la régulation de climat à l'échelle mondiale. Il y a également aussi un retard concernant le métier, les métiers liés au domaine de l'environnement et autres. Je me tourne vers vous, Jeringoua. Vous êtes rédacteur en chef du média en ligne, APAMédia. Dites-nous, quelle est l'information qui a le plus retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir?
Bonsoir Tati.
Bonsoir.
Bonsoir Ferra et bonsoir Jack Kalemi. J'ai pensé aussi commenter sur la réélection de Donald Trump, désolé.
L'émission se déroule en français, chers collègues.
Oui, alors je m'en excuse. Et une autre actualité qui a retenu mon attention est la menace de radiation de plus de 500 avocats au barreau de Maïndoumbé. Décision prise par le bâtonnier Jurbal Mputu. Et la cause est que les avocats sont accusés de ne pas avoir honoré leur cotisation mensuelle. C'est quelque chose, sachant que le Maïndoumbé est une nouvelle province qui est issue de l'éclatement du Grand Bandundu, et le Maïndoumbé a beaucoup à faire pour
le développement de cette province.
Et avoir une décision je voudrais pas dire unilatérale, une décision comme celle-là sur plus de 500 avocats. Et par le même billet, il y a plus de 100 stagiaires avocats qui sont menacés aussi de subir le même sort. C'est quelque chose qui a vraiment qui aura hein, si appliqué un impact sur l'application de la loi et dans cette jeune province.
Oui, mais en même temps, si je me pose la question, 500 avocats dans une nouvelle province comme Maïndombe, c'est pas un nombre pléthore. En même temps, je me pose la question.
Ben, ce qu'il faudra peut-être retenir de Maïndombe, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le savent, Maïndombe et surtout le chef-lieu Inongo, c'est vraiment une petite ville.
En émergence administrative en même temps.
Exactement. Mmh. Et 500 avocats, c'est comme annuler l'avenir professionnel de plusieurs avocats. Mmh. Et à ce moment-là, la justice ne sera plus bien appliquée. Pourquoi ? Parce que le peu d'avocats qu'il y a, parce que déjà sur le grand boulevard du Maïndombe, vous trouvez qu'un seul cabinet
d'avocats.
Et donc, à un point, on se pose la question, est-ce que c'est pas une manœuvre mise en place pour favoriser quelques-unes des personnes et tout cela? Ben, c'est l'actualité qui a retenu mon attention, en dehors, bien sûr, de quoi. Trump étant un climato-sceptique, comme on aime bien dire, mais il faudra aussi voir l'aspect sécuritaire. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la RDC s'est engagé à l'international pour chercher à finir avec la guerre de l'Est, la guerre du M23 et tout ce qui est impliqué. Mais avec un Trump au pouvoir, à quoi les Congolais devront s'attendre? Ben, nous savons que Trump, lors de son dernier, de sa dernière présidence, en tant que 45e président des États-Unis, n'a pas beaucoup milité ou ne s'est pas beaucoup intéressé.
Sur la question de l'Est.
De l'Est, oui. Ben, nous avons quand même espoir. Savons que, Trump, à un point, s'est impliqué personnellement dans la guerre contre le Boko Haram et nous avons vu des résultats. Ben, dans ce même aspect, nous savons que la RDC ne peut pas, ne figure pas, hein, pour ne pas être trop carré dans cela. Donc, n'est pas l'une des nations chéries de tout cela. Nous savons que Elon Musk a beaucoup pesé sur la réélection de Trump. Elon Musk, c'est un milliardaire qui s'est fait l'argent dans la technologie. Ouais. L'Est de la RDC fournit...
Ah, des gisements, des batteries de lithium qui permettent la fabrication des batteries électriques.
Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, à en croire, c'est que Elon Musk annonce... Il y a l'aspect sortie de téléphone portable Tesla qui seront connectés directement à Starlink, qui est le produit phare de vente d'Internet. Mm. Alors, nous nous demandons aujourd'hui, serait-il possible à Elon Musk et Tesla
de militer pour la fin de la guerre à l'est
oui,
du pays,
pour prendre ces minerais d'une bonne manière, ou serait-il facile, par exemple, de les retirer par le bac, par la porte derrière, pour se faire plus de bénéfices?
Et un autre aspect très important pour les nations africaines, elles craignent également que le nouveau président puisse se décider de retirer les pays africains de la GOA, qui est un grand marché qui permet aux pays africains d'écouler les produits locaux.
Exactement, Tati, parce que avec la GOA, bon, je ne pense pas que la RDC, nous avons beaucoup à craindre déjà, parce que on a rien à échanger avec les Américains, donc ça c'est une question peut-être.
Mais le fait qu'on ait déjà été éligible, donc...
Éligible pour causer quoi?
Les produits locaux.
Lesquels?
Ben oui, c'est un peu ça, le bref de ce qui a retenu mon attention cette semaine.
Merci à chacun de vous d'avoir décortiqué pour nos auditeurs l'actualité qui a retenu ou qui ont retenu les informations qui ont retenu votre attention le long de cette semaine. Les premiers thèmes de ce soir concernent les nouvelles mesures prises par les autorités de tutelle pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis le 4 novembre dernier. Et selon la Commission nationale de prévention routière CNPR en sigle. La phase expérimentale concerne particulièrement les avenues Nguma, Tourisme, Mondjiba, Poualour et les boulevards Lumumba. L'objectif de ces modes de circulation alternée à sens unique est celui de permettre aux Quinois et Quinoises de ne plus passer beaucoup plus de temps dans les embouteillages et de fluidifier, pardon, la circulation pendant les heures de pointe. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous proposons de suivre l'extrait de l'interview que Blaise Ndongala a eu avec Valère Fumukani. Il est directeur technique de la CNPR.
L'opération consiste à des mesures purement préventives pour que les Quinoises et Quinois puissent maintenant circuler assez librement aux heures de pointe. C'est comme ça que nous avons eu à dédier certains artères à sens unique alterné aux heures de pointe. Nous avons l'avenue Nguma du côté ouest qui est dédiée à sens unique de 5 heures juste jusqu'à 10 heures. L'essence est de Météo vers Kitambo Magasin. À part ça, nous avons également, toujours du côté ouest, l'avenue du tourisme. L'essence unique, le matin de 5h à 10h, commence au pont Mimosa jusqu'au niveau de Kitambo Magasin. Et toujours le matin, de 5h à 10h, l'avenue Mondjiba, au niveau de Kitambo Magasin, a d'habitude 3 bandes du côté droit. Nous avons ajouté une bande additionnelle. La bande qui vient après les séparateurs, qui constitue maintenant 4 bandes pour le sens qui tombe au magasin vers la gare centrale. Et puis nous disons de 10 heures à 15 heures, la situation est libre et jusqu'à 15 heures. De 15 heures maintenant, nous commençons le sens inverse. C'est comme ça que nous sommes en train de conseiller les avant-midi à tout le monde qui prenne ces voies-là de ne pas monter sur le saut des moutons.
Vous venez là de suivre la déclaration de Valère Fumukani, qui est directeur technique de la CNPR sur les mesures prises pour lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Alors, comment est-ce que vous, chers collègues, analysez cette information? Donc, nous allons commencer par Jack Furaisha, qui est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi, dans les Tanganyika. Jack, c'est vrai que Kalemi est loin de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comment commentez-vous cette actualité des embouteillages au niveau de la ville de Kinshasa, bien que ça se passe trop loin de la ville de Kalemi?
Merci beaucoup, Tati. Bon, c'est pas trop loin de Kalemi, hein, parce que c'est notre capitale.
On est dans le même pays.
D'ailleurs, je viens d'écouter. Est-ce que pour mettre fin aux embouteillages, il faut tout ce que les directeurs généraux, les directeurs techniques viennent de dire? Moi, je ne pense pas. J'ai été à Kine. Pour quitter la commune de Kinshasa vers le centre Nganda, on faisait presque 2 heures et on a connu beaucoup de retard pour les activités du congrès à cause de ces embouteillages. Alors moi je ne pense pas que tout ce qu'a donné les détails techniques c'est ça, non. Ils doivent d'abord commencer par désengorger Kinshasa. Désengorger Kinshasa comment? La seule manière, le seul moyen qui permet à une ville d'être désengorgée et que les gens ne sont pas victimes de l'embouteillage, tel que nous vivons ça dans notre capitale, c'est de construire des routes. Construire des routes. Bien sûr que les gens peuvent se poser des questions. On va construire des routes où? Pendant que toute la ville est construite, il y a des maisons le long des
l'étalement de la ville,
oui. On a appris dans des villes à l'est et même chez nous ici, on a démoli des maisons pour permettre aux gens de passer. Il faut démolir des maisons et afin que les gens passent. Moi, je pense que ça serait une bonne manière. Moi, je pense que c'est pas vraiment des stratégies pour permettre aux Quinois, pour permettre aux Congolais, quand on parle de Kinshasa, c'est notre grande ville que nous tous on rêve toujours y rester. Le seul moyen serait, à mon avis, de construire des routes. Construire des routes où? On sait tous bien que toute la ville de Kinshasa, il y a des maisons partout le long de la route. Mais s'il faut démolir des maisons, on peut démolir des maisons pour permettre la bonne circulation. Aujourd'hui, si vous arrivez dans la ville de Lubumbashi, c'est vraiment rare de vivre des embouteillages parce qu'il y a des routes partout. Quand vous arrivez dans la ville de Goma, même chose, c'est rare qu'il y ait des embouteillages parce qu'ils ont ils ont construit des routes, il y a des routes partout, et vous passez sans problème.
Oui, mais, chers collègues, vous n'allez pas comparer la démographie de la ville de Kinshasa à celle de Lubumbashi et de Goma.
Oui, Tati, ça, 120 millions d'habitants, donc dans ce cas, il faut l'engager dans la ville. En 2019, on nous parlait de la nouvelle de Maluku, que les gens devraient aller à Maluku, afin que la ville reste un peu à l'aise. Jusque-là, nous sommes où avec cette stratégie? Mais s'il faut démolir des maisons afin que la ville ait un peu de routes, nous, on est encouragés. On a construit des sauts de moutons. Où sont partis les sauts de moutons? Qu'est-ce que les sauts de moutons nous servent? L'argent. On a investi beaucoup d'argent dans ces sauts de moutons, mais
les embouteillages persistent.
Ils ne servent presque à rien, à mon avis. Les embouteillages persistent. Et quand il y a la pluie,
c'est plus compliqué de circuler.
Non, même pas moyen de circuler. Bon, je me pose des questions. L'argent qu'on a investi dans les sons des moutons a fait quoi?
Merci beaucoup, Jack Fouraïcha. Nous rappelons que vous êtes rédacteur en chef de la radio Ndenga FM, basée à Kalimi, dans la province du Tanganyika. Nous vous gardons en ligne. Ne quittez pas la ligne, mais essayez un peu de vous déplacer pour améliorer la qualité de l'écoute. Ferran Toumba, je me tourne vers vous. Comment commentez-vous cette actualité sur les nouvelles dispositions prises pour faciliter la circulation, la mobilité des personnes et de leurs biens dans la ville de Kinshasa?
Alors, merci pour, une fois de plus, m'accorder la parole. Moi, sur ce sujet, je vais revenir sur... Il y a un mot que vous avez placé pendant que le confrère de Kalemi intervenait, c'est la question de la démographie. On parle du poids démographique de Kinshasa. Vous êtes sans ignorer qu'à l'époque où Kinshasa a été construit, j'imagine, à l'époque où nous n'étions pas encore là...
Colonial, en tout cas, voilà. Léopoldville, à l'époque.
Et même alors, même dans les années 70, on parlait de moins de 1 million de personnes qui habitaient Kinshasa. Aujourd'hui, on est dans les 100 millions de gens qui vivent Kinshasa, qui habitent Kinshasa, j'allais dire. Mais la structure routière qu'il y avait à l'époque, c'est la même, à quelques modifications près. Mmh. C'est la même structure.
Oui.
Alors, mais il y a des questions à se poser. Moi, j'estime qu'on salue les initiatives qui sont prises par les décideurs pour pouvoir alléger, on va dire, un temps soit peu, les calvaires des Quinois, qui sont obligés d'affronter les bouchons tous les jours. La CNPR, la Commission nationale de prévention routière. Moi, je pense que cette idée, elle n'est qu'une mesure, temporaire, à mon sens.
Oui, mais en même temps, ça donne l'impression sur terrain, Ferra, que c'est encore compliqué d'avoir la situation.
Non, mais justement, pour en venir à cette décision, et c'est une décision, c'est une idée qui a été prise par cette commission. Mais est-ce qu'elle a été, on va dire, alimentée, si pas dire enrichie par les contributions de tous les secteurs, tous les acteurs impliqués dans la circulation routière? Par exemple, je ne pense pas. Par exemple,
la SECO, ce sont les chauffeurs, par exemple,
ils ont été impliqués. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on parle du manque à gagner des taximens. Quand vous êtes sur, par exemple, vous êtes sur l'Imété, poids lourd, vous devez arriver sur la gare centrale. On vous dit les matins, c'est sens unique. Alors, ces taximens qui amènent les gens vers le sens unique, comment est-ce qu'ils vont rentrer? Ils doivent prendre flambeau. Quand on sait que flambeau est
très dégradé, très avancé.
Comment voulez-vous que ces taximens
prennent? À l'intérieur des Bralima, c'est impraticable.
Comment voulez-vous qu'ils prennent les gens? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il part pour ne pas rentrer. Et ceux qui doivent rentrer, ils ne savent plus comment rentrer parce que le taximen ne veut pas prendre cette route-là. Vous voyez qu'au lieu d'apaiser, ça attise encore la souffrance des Quinois. Alors, si vous partez de l'axe ouest où on doit partir vers Ngouma ou partir vers Pompage, mais quand ils doivent partir, comment ils ramènent les gens? Les gens qui sortent de l'école, qui doivent monter vers là-bas, le haut, Ipen ou je ne sais pas moi. Mais ils sont pénalisés. Certains vous diront que non, maintenant c'est bon. Mais d'autres se plaignent. Alors,
Sur le boulevard, on a remarqué que dans les deux sens, aux aires de trafic élevé, oui, c'est compliqué sur les deux bandes.
On ne sait plus tourner parce qu'ils ont, ils ont bloqué. Est-ce que ça résout le problème? Point d'interrogation. Aujourd'hui, il y a une question de sensibilisation. Est-ce que quand on a pris ces mesures, est-ce que les Quinois ont été sensibilisés?
Est-ce que les usagers de la route ont été informés
suffisamment? Je me pose des questions. Moi, je me souviens que j'ai vu l'annonce dans les réseaux sociaux, je crois, les dimanches, dans la matinée.
Depuis le lundi, on s'est réveillé.
Depuis le
dimanche dans la soirée.
Je vivais ça. Mais les gens n'ont pas eu suffisamment le temps de s'informer, de comprendre. Utiliser les médias, c'est bien bon. Mais aller aussi dans les hors-médias, parce qu'aujourd'hui, qui regarde la télé? Excusez-moi, mais on a un problème de courant. Moi, chez moi, ça va faire 2 jours, je n'ai pas de courant. Allez-y comprendre. Si quelqu'un doit s'informer à la télé ou à la radio, je ne sais pas comment il va faire. Utiliser tous les moyens, mais informer les gens. Suffisamment, en tout cas, les gens ne sont pas informés. C'est ce qui fait qu'il y a des quiproquos. Et même les taximens, là, moi, je parle de la question du manque à gagner pour eux. Maintenant, ils choisissent les routes. Ils choisissent. Entre temps, les gens qui doivent prendre les taxis sont pénalisés parce qu'ils ne savent pas comment circuler. Maintenant, au lieu de résoudre un problème, on l'aura aggravé. Moi, je pense que, même alors, ces mesures sont des mesures pour moi. En tout cas, je vais dire, au-delà d'être préventives, au-delà d'être, elles sont moins durables. Le vrai problème, c'est qu'il faut résoudre le problème et non, il faut résoudre les causes et non les conséquences du problème. Les conséquences, la cause, nous savons que c'est un problème de routes. Il faut construire les routes, il faut réhabiliter les routes, ils sont en développement très avancé. C'est bien bon de prendre ces initiatives-là, mais allez-y. Il y a des routes qui sont en train d'être réhabilitées, mais ça prend du temps pour que ça puisse se terminer. Tenez l'avenue Wangata, par exemple, qui est une route qui pourrait
désengorger une bonne partie de la commune de Kinshasa-Lingwala.
Kinshasa-Lingwala, ou même Barumbu, ouais. Sud extrapolé.
C'est plus de 4-5 ans que c'est à l'état de chantier, cette route-là.
Mais la réputation patauge. Quand vous interrogez, on vous dit non, mais on n'a pas donné les moyens. C'est-à-dire, on sent d'une part la volonté de faire les choses, d'une part la volonté de ne pas faire les choses. On se pose des questions. Nous, on veut bien que, voilà, on applaudit ce qui est en train d'être fait, mais si c'est mal fait, comment voulez-vous qu'on apprécie les initiatives émanant des décideurs pour pouvoir nous alléger ou nous rendre la vie moins difficile? En tout cas, j'estime que ces mesures-là,
parce que j'ai également constaté du côté ouest, pour atteindre par exemple le quartier 1 à partir de Lemba, ou si vous êtes à Limité, les taximens n'amènent plus le passager au quartier, ils s'arrêtent à des bonhommes. Ils s'arrêtent à des bonhommes parce que s'il arrive au quartier, il sera obligé d'aller contourner jusqu'au marché de la liberté.
Même sur des bonhommes.
Et la route, elle est
c'est compliqué.
Très dégradée en dessous du son du mouton. Et c'est,
très peu sont ceux qui sont satisfaits de ces mesures. En tout cas, je vous assure, très peu. Tant mieux pour eux. Mais le reste, la majorité, ils s'en plaignent. Et de gens, je pense que...
Commission nationale de prévention routière.
Voilà. Ouais. Elle a voulu bien faire, mais je pense que certains acteurs n'ont pas été impliqués. Donc, il y a aussi un problème de sensibilisation, un problème de... Voilà, ça ne résout pas les problèmes.
Y compris les panneaux de signalisation. N'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Vous réduisez, vous dites qu'à des aires de trafic élevé, par exemple, pour quitter la ville, pour atteindre la gare centrale, et que la bande gauche, il y a une bande qui est réservée à ceux qui viennent de Kintambo. Mais ça doit être indiqué sur la chaussée.
Ce n'est pas signifié. Attendez, au croisement des Batété là et boulevard du 30 juin, ils ont interdit la circulation. Mais ce n'est pas signifié. Quelqu'un qui vient là-bas de Avenue de la Gomé, par exemple, qui voudrait sortir et peut partir sur le magasin, il ne peut pas, mais il ne savait pas. Il n'y a pas de signalisation. Qu'est-ce qu'il fait? Il sera sujet à une amende. On le confisque son véhicule, il est entre guillemets tracassé. Après, les gens se plaignent. Il faut signaliser, qu'il y ait des signalisations, comme vous dites. Il faut qu'il y ait une sensibilisation. Les gens ne sont pas suffisamment informés sur la question. Si on compte maintenir ces mesures pendant un moment, un long moment, j'allais dire, il faudrait qu'on puisse sensibiliser et informer suffisamment la population qui doit bénéficier de cette mesure. Sinon, ça sert à rien.
Merci beaucoup, Ferran Touma. Nous rappelons que vous êtes journaliste environnemental et animatrice du magazine
Objectif Vert.
Je me tourne vers vous, Jirigua. Vous êtes rédacteur en chef de APA Média. Comment analysez-vous cette actualité avec laquelle on s'est réveillé cette semaine pour réglementer, réguler, au fait faciliter la circulation de personnes de l'air bien dans la ville de Kinshasa?
D'entrée des jeux, je dis coup de chapeau au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et la Saint-Père et tout ce monde-là. Pourquoi j'ai dit coup de chapeau? Parce que il y a quelqu'un qui a osé, il y a au moins une initiative qui a été ramenée pour parler des histoires des embouteillages qui sont
vécues au quotidien ici à Kinshasa.
Vécues au quotidien à Kinshasa. Nous parlons des embouteillages, nous parlons de fluidifiés, Ngouma, Mundjiba et tout cela. Mais rappelez-vous que toutes ces grandes artères où on a appliqué la mesure de sens unique déversent leur lot sur des artères qui sont presque impraticables et des fois abandonnées des années durant. Donc c'est un problème, une tentative de résolution d'un problème qui crée
d'autres problèmes.
Vous voyez. Alors ça c'est un aspect. Il y a aussi l'aspect que Ferra a évoqué il y a pas longtemps, l'aspect de la démographie. Quand Kinshasa a été établi, les plans faits, c'était pas pour la population ou
la démographie d'aujourd'hui.
La démographie que nous avons aujourd'hui. Quand Jacques de Calémie a parlé de désengorger, moi,
pour moi, je pensais qu'il aurait dit désengorger le centre-ville en envoyant les institutions ça et là. Pourquoi? Parce que tout le monde vient au centre-ville le matin
et puis dans la soirée, tout le monde repart dans l'autre sens.
Et ça, c'est quelque chose qui va aller. La tentative imposée par la CNPR et le gouvernement provincial de Kinshasa, ben, cette tentative, au bout de l'échéance qui se donne, va échouer. Ça, c'est un échec. J'étais heureux de voir les images du chef de l'exécutif provincial aller visiter... Comment on recouvrait les nids des poules du côté gare centrale et tout cela. Ben, par curiosité de journaliste, je suis passé le lendemain. Ce que j'ai trouvé, bon, j'ai pas trop à dire, hein. Et si c'est de cette manière que nous allons résoudre le problème, nous allons créer d'autres problèmes. Il y a l'aspect aussi civisme.
Ça c'est un problème. Ouais. Ça c'est un problème du côté usager de la route, du côté des agences censées réguler la circulation. Ça c'est un problème.
Exactement. Alors, quand on parle de civisme, moi j'ai dit que on ne peut pas passer tout le temps de parler auto-école, livraison de permis de conduire pour 100 dollars, 50 dollars ou autant. Tout ça, ça c'est chercher à renfler les caisses de l'État pour combler les vides qu'il y avait. Le grand problème de la conduite à Kinshasa, ce civisme-là, je vais vous donner un exemple. Voyez, quand le chef de l'État doit se déplacer vers l'aéroport ou quelque chose, ou qu'on place les éléments de la garde républicaine
le long de la chaussée,
sans sens unique, sans quoi,
les voies sont dégagées.
Exactement, tout marche. Alors, pourquoi ne pas chercher peut-être à voir dans cette perspective pour essayer de régler ces problèmes. Ferra a aussi parlé de la sensibilisation. Moi également, j'ai été surpris de ces mesures-là parce que je n'étais pas informé en amont. Je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Ben, pour moi, c'était une blague. Et le lendemain, arrivé où je devais faire jonction de Batété, là, je ne pouvais pas entrer. Je devais aller jusque Mandela. Et ben, Jack a noté le problème des embouteillages à Lubumbashi. Ben, mon cher ami, et à Lubumbashi, à un point, il y avait des embouteillages. Il y avait des embouteillages. C'était pourquoi? Parce que tout le monde qui descendait vers le centre-ville était en train, en provenance de la partie ouest de la ville, était en train d'utiliser la route du Golfe. Pourquoi? Parce que les biais, Kassapa, tout cela était en très mauvais état. Mais les autorités en place ont pris l'initiative de
réhabiliter ces routes,
construire de nouvelles routes, et maintenant
la ville est désengorgée,
le flot et
la circulation est redevenue à la normale.
Ouais, exactement. Alors sur cette actualité des embouteillages, je pense que ceci n'est pas la mesure sur laquelle on doit discuter, parce qu'il faudra aussi discuter voirie et drainage. Vous avez des caniveaux qui sont bouchés.
Qui ne fonctionnent plus,
ça fait des années.
Des rivières qui ne fonctionnent plus. Lorsqu'il pleut, de l'eau déborde et puis ça envahit les chaussées et c'est compliqué.
Exactement. Je vais vous donner un exemple. Dans la commune de Kintambo, par exemple, Kasavubu contre Bangala, cet endroit est réparé par l'OVD chaque année.
Et la route est dégradée aussi chaque année.
Et pourquoi? Parce qu'il y a des caniveaux bouchés qui
déversent. Et des eaux qui viennent stagner sur la voie.
Dans
la voie fluviale, la chaussée.
Alors, tout ça, ben, nous avons un autre problème qui crée des embouteillages. C'est le manque des parkings. Au centre-ville, nous avons un problème sérieux. Pourquoi? Parce que tout le monde pense à construire des immeubles et faire louer les locaux. Il n'y a personne qui ne pense à ériger un immeuble qui va servir de parking et où il gagnera peut-être plus que ce qu'il gagne avec quoi. Mais si la population ne peut pas commencer pour des raisons ci et là, pourquoi l'État ou la ville-province de Kinshasa ne peut pas démarrer une initiative?
Et puis la circulation, chers collègues, des véhicules poids lourds pendant la journée, alors qu'on est autorisé de ne rouler que de 21h à 4h ou à 5h, je pense.
trouver une solution immédiate était un problème. Vous voyez, par exemple, du côté pompage, on construit un marché sur l'ancien cimetière pour que... Mais nous avons aussi des espaces qui restent vides ici au centre-ville. Nous avons Place Royale et tout cela. Pourquoi ne pas renvoyer ces gens, par exemple, un samedi, où ils vont vendre pendant 4 heures de temps afin d'éviter de...
Des attroupements les longs des artères principales. Merci beaucoup à vous d'avoir commenté, analysé ces thèmes, ces rapportants nouvelles mesures de lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le deuxième et le dernier thème, chers collègues, de ce soir concerne la convocation des États généraux de la justice en RDC par les ministères des tutelles. Le président Félix Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême, a procédé à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice congolaise à Kinshasa le 6 novembre dernier avec comme thème « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ?» Quelle thérapie face à cette maladie? Près de 3500 acteurs du secteur judiciaire, de la magistrature, des spécialistes nationaux et internationaux, des activistes des droits de l'homme et des universitaires venus de divers horizons sont en train de poser les diagnostics sérieux et réaliser une autopsie réelle de l'état de santé de la justice congolaise jusqu'au 13 novembre prochain. Comment analysez-vous cette actualité? Avant de décortiquer ces sujets, nous vous proposons de suivre la déclaration de son excellence Maître Constant Moutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, à l'ouverture de ses travaux.
Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est un cadre des prises de conscience collectives, des remises en cause systémiques et systématiques des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice.
Vous venez là de suivre la déclaration de son excellence Maître Constant Moutamba à l'ouverture des travaux des États généraux de la justice congolaise le 6 novembre dernier, c'était à Kinshasa. Comment commentez-vous cette actualité, chers collègues? Nous commençons par Jacques Fouaïcha, il est directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi dans la province du Tanganyika. Jacques, comment analysez-vous cette actualité?
Oui, Tati, c'est que vrai, moi je pense que c'est le moment. Dis, c'est le moment pourquoi? Je ne sais pas s'il fallait que Constant Moutamba arrive pour avoir une justice organisée dans notre pays. C'est que le pays de la justice. Si vous avez un pays où il y a un problème au niveau de la justice, sache que ce pays ne marche pas. Parce que ce pays, rien ne va.
Parce qu'on dit que la justice élève une nation, travaux... cher Jacques.
Oui, justement, la justice élève une nation. Si la justice est malade, comme certains l'ont toujours dit, moi je pense que ce pays aussi risque d'être malade. Donc, la force d'une nation, c'est sa justice. Et avec ces travaux, avec ces états généraux de la justice, moi, je pense que c'est déjà un début vers une justice organisée dans notre pays. La justice qu'on a attendue depuis un certain moment. Mais je ne sais pas s'il fallait que le ministre, que l'excellence Moutamba arrive pour qu'on ait une justice non corrompue, pour qu'on ait une justice organisée, pour qu'on ait une justice où tout le monde peut aller juger et quand même vous sortez dans vos droits et sans problème. Mais le grand problème, c'est quoi? Par exemple, pour nous qui vivons dans l'intérieur du pays, à Kinshasa, ça peut être bien passable parce que lui-même est sur place et fait le suivi de toutes les recommandations possibles qui sortiront des états généraux de la justice. Mais quid de nous, des territoires? Quid de nous qui sont dans
l'intérieur du pays,
où vous allez vous rendre compte que tout le monde, même un chef du village, se prend pour un intouchable, et que personne ne peut toucher sur lui. Et il oublie même que l'État commence par les quartiers, l'État commence par l'avenir, l'État commence par les villages. Là, vous êtes dans un village, et la justice doit commencer par là, et il faut s'organiser pour que notre justice, donc l'image qui sera vendue à Kinshasa, que cette image soit aussi vendue dans des provinces, dans des territoires, et les Congolais, tous les Congolais partout où nous sommes, nous pouvons aussi bénéficier de ça. Moi, je pense que l'initiative du ministre de la Justice et de la Ressource, c'est vraiment une bonne initiative, une initiative à saluer, mais sa mise en application. Sa mise en application, c'est ce qui pose problème. Aujourd'hui, je suis tombé sur un dossier où quelqu'un me dit qui demande, bon, il y a un député qui lui doit une certaine somme d'argent et que les députés ne voulaient pas lui donner, ils vont aller en justice, il attend les résultats des états généraux. Mais il me dit, non, est-ce que vous pensez que comme nous sommes à l'intérieur, ça marchera, il faut l'amener à Kinshasa. Donc, nous prions que ces recommandations soient aussi utiles pour nous de l'intérieur du pays. Que ça ne soit pas pour Kinshasa, que ça ne soit pas pour juste la capitale, parce que le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa.
Non.
Le Congo, c'est aussi
toute la République, les 2 345 000 km².
C'est toute la République.
Exactement.
Oui, c'est toute la République. Que cette justice soit vraiment bénéfique pour toute la nation, ça nous fera plaisir et ça fera plaisir à tous les Congolais qui attendent quelque chose de ce ministre jeune. Hein, moi, je peux l'appeler tout frère parce qu'il est jeune comme nous et il fait preuve de ce qu'il est capable. Mmh. Et c'est vraiment une fierté pour la République.
En même temps aussi, Jack, nous savons tous, on est dans la presse active depuis bon nombre d'années, donc on sait que les réformes du secteur de la justice remontent en 2006, mais jusqu'à là, on ne voit pas vraiment des résultats palpables sur le terrain. C'est ça la difficulté. Et ce ne sont pas les premiers états généraux qui sont réalisés ici. L'an dernier, c'était pour les agronomes. Il y a 2 ans, c'était pour le SU, mais en réalité, on ne voit presque pas grand-chose de changer.
Hein. Oui, bon, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On peut prendre des décisions, on peut faire l'état généraux de la justice, mais les suivis des recommandations de ces états généraux, si je peux toucher des états généraux de la communication et des médias qu'il y a eu l'année passée à Kinshasa, pour nous la presse, mais les suivis des recommandations ici de ces états généraux. On a été aux états généraux de la communication. Et jusque là, rien ne va. Rien ne change au sein de la presse. Rien ne change, rien ne va. Il y a eu en 2006 les états généraux, c'est pas pour la première fois les états généraux de la justice. Mais les décisions souffrent toujours au niveau des suivis. Si le ministre actuel de la justice, Edgar Lassalle, si lui sera capable de faire le suivi de toutes les recommandations ici de ces états généraux, moi je pense que les Congolais peuvent vraiment se dire « et voilà la personne qu'on attendait pour une justice équitable dans notre pays ». Pour une justice équitable dans la République du Congo. Je disais, même les Congolais qui sont à Bunagana doivent bénéficier de cette justice équitable dans notre pays, une justice qui sera vraiment bénéfique pour tout le monde.
Merci beaucoup, Jack Fouraïcha. Nous vous gardons en ligne et rappelons que vous êtes directeur général de la radio Ndenga FM, un organe de presse basé à Kalemi. Nous sommes là dans les Tanganyika. Ferrand Toumba, vous êtes présentatrice de l'émission Objectif Vert. Comment commentez-vous cette actualité liée aux états généraux de la justice en RDC?
Alors, merci pour la parole. Je vais commencer par revenir sur les discours du ministre lors de l'ouverture de ses travaux. Il a dit que ce n'était pas un lieu de confrontation. Ça, j'ai aimé. Parce que déjà, on part sur une base où on n'est pas ennemis. on vient pour parler. Il a parlé d'un éveil de conscience collective. Ça, j'ai aussi apprécié parce qu'il ne s'agit pas d'une seule personne. Il ne s'agit pas d'un seul camp. C'est tout le monde
qui est concerné. C'est tout un corps de métier.
C'est-à-dire, pas le corps de métier. Ici, il s'agit de tout un peuple. Nous tous, nous sommes concernés.
Parce exactement.
Il a énuméré le peuple que nous sommes. Ouais. C'est-à-dire que c'est un lieu où tout le monde, un peu comme ce que disait le confrère Jerry tout à l'heure par rapport à la question des embouteillages, on parle ici des consultations populaires. En fait, en vrai, c'est aussi ça. Mmh. C'est une consultation populaire.
Exactement.
Chaque compartiment, chaque classe sociale peut aller dire ce qui ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses?
Et qu'est-ce qu'il faut faire, justement?
Voilà.
Qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe?
Exactement.
Alors, il a également parlé de la remise en question sismique, je crois, et systématique. Mmh. Alors là, c'est vraiment ce qui, moi, m'intéresse. C'est un système. Nous sommes dans un système, dans ce pays, où on parle des grands, des intouchables. Ça existe. Depuis en tout cas des décennies, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, ça existe comme ça. Mais si aujourd'hui, à travers ces travaux qui viennent d'être lancés, on va toucher ce point-là, par exemple, de dire que nul n'est au-dessus de la loi, car le secteur judiciaire, c'est le secteur qui régule tout ce qui peut se passer dans un pays. Vous le disiez tantôt, la justice élève une nation. Mais on parle de quelle justice? Pas une justice à double vitesse.
À deux vitesses, oui.
Pas une justice qui concerne...
Taillée sur mesure.
Voilà. Pas quand c'est la tête de celui-là, quand on appelle et puis tout est abandonné. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de l'histoire de Nzulo. Nzulo, nous sommes dans la province du Nord Kivu. C'est une partie qui se trouve dans le parc national de Virunga. Il y a hier un jugement qui a été rendu par la cour d'appel de Kalemie. Nous sommes dans la province du Tanganyika. C'est ça, c'est une m'abuse.
Oui, oui.
Alors, ces jugements souffrent de sa mise en application. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes personnalités de ces pays qui sont dans les dossiers. C'est bloqué. Aujourd'hui, dans la question de pollution de l'environnement, autant de gens qui polluent l'environnement aujourd'hui, ils sont intouchables. Ils ne sont même pas inquiétés.
Parce qu'ils sont tout puissants.
Ils sont tout puissants. La question de la carbonisation dans les parcs nationaux, on en parle encore dans le parc de Kahuzi-Biega. Ils sont intouchables parce que ce sont des personnalités haut placées de ce pays. Mais après, l'autre revers de la médaille, c'est quoi? Il y a eu les états généraux de la forêt. Il y en a eu la presse. Il y en a eu à l'ESU. Il y a même eu des travaux de moindre, je crois, sur la question de la justice.
Exactement.
Mais qu'en est-il de la mise en application de toutes ces recommandations qui ont été prises, qui sont prises? Là, c'est vraiment un problème qu'on se pose. Après, finalement, on s'est dit, on est tellement lassé, ça ne va rien porter. Non. On continue à les faire. On va continuer à poser les vrais problèmes. Peut-être qu'un jour, peut-être demain, on va se dire, maintenant, on applique ces recommandations et ça va changer. Mais moi, je pense que, sans trop aller dans le sens de caresser les ministres dans le sens de poil, mais j'estime que c'est quand même une décision courageuse. Moi, je l'ai suivi à la télé, Il a parlé pendant près de 30 minutes, ou peut-être 20 minutes, sans consulter son papier. C'est-à-dire que c'est comme une initiative qu'il prend, qui le tient à cœur.
Mais il y a aussi un autre aspect important, c'est comme s'il y a un bras de fer entre les ministères des tutelles et les magistrats.
Oui. Il a dit, ce n'est pas une idée de confrontation, parce que quand il a dit ça, il a dit clairement, c'est pour dire qu'il y a un soupçon des bras de fer qui est engagé. Quand tout le monde, nous suivons l'actualité, nous savons ce qui s'est passé il y a des jours qui ont suivi sa nomination à ce poste-là, on a vu comment ça s'est dénoué, même si on sent qu'il y a des guéguerres. Même, je crois que quelqu'un a intervenu pour dire qu'il faudrait qu'on commence par appliquer les recommandations qui ont été faites à Mwanda. Vous avez suivi les discours du ministre.
Exactement.
Je pense que si on va comme ça, on sent cette guéguerre-là qui plane là. C'est peut-être pas bon, mais on se dit, on y va quand même. Tous les Congolais sont d'avis que la justice est malade. Le président l'a lui-même dit dans un de ses discours. La justice est malade et tout le monde est concerné. Même avec cette histoire de bouchons. Il y a des gens qui sont intouchables, qui prennent des sens contraires, qui sont impunis parce que, entre guillemets, ils sont...
Même les officiels
qui eux-mêmes sont des lois, finalement.
De ne pas respecter les consignes de circulation routière.
Et maintenant, qu'en est-il du petit peuple qui va suivre le... Celui-là, il sera fortement réprimandé. Hein. Il sera tapé sur le doigt, il sera même arrêté. On va le ravir son véhicule. Pourquoi on ne peut pas appliquer cette justice pour tout le monde? Aujourd'hui, je pense que ces états généraux de la justice, en tout cas, on souhaite que... l'application des recommandations qui seront faites à l'issue de ces états généraux, j'ai suivi le ministre qui disait que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que même les hautes instances du pays...
Oui.
Nous venons des élections, si je peux sauter des
cacalades. Mais Jack vient de les relever, il y a un député qui doit à un citoyen, à Kalemie, mais il est député, il a les immunités.
Il est intouchable.
Il a les immunités, il faut attendre que le mandat termine.
Mais souvenez-vous, lors des élections, combien ne sont pas les corruptions que nous avons dénoncées. Vous l'avez fait, j'imagine. Les journalistes l'ont fait.
Tout à fait.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette justice-là s'applique à tous les niveaux? Point d'interrogation. Nous demandons qu'enfin, qu'on se mette à appliquer les recommandations. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des états généraux de la forêt, n'est-ce pas?
Oui.
Mais allez-y rencontrer les gens de la société civile. Ce sont les mêmes plaintes qui reviennent.
Exactement.
N'est-ce pas?
Et vous allez voir les résolutions qui seront prises aux États généraux vont se recouper avec les résolutions prises aux travaux des mandats.
Par exemple. Mais il y a aussi un autre problème. Aujourd'hui, un problème de... Il paraît qu'on dit que les institutions restent, les individus passent. Je ne sais pas, c'est une expression qu'on sort souvent. C'est-à-dire que quand le ministre va partir, toutes les initiatives qu'il aura prises là, ils seront mis dans un placard. Il n'y a pas de continuité de l'État, comme on dit. Quand le ministre Mutamba initie des choses, la ministre Rose l'a fait. Je crois que c'est pour les travaux de Mwanda.
Exactement.
Est-ce qu'on ne peut pas prendre ce qui a été...
Partir de cette base.
Si on partait de là, par exemple, voir ce qui n'avait pas été dit, améliorer, puis appliquer ce qui avait été dit pour continuer. En tout cas, ce serait triste de voir toutes ces recommandations qui seront faites à l'issue de ces travaux, des consultations populaires, comme moi je préfère qu'il en soit ainsi, que cela soit appliqué. Parce que ça pose un problème d'application des recommandations.
Merci beaucoup, cher Ferran Toumba. Nous rappelons que vous êtes présentatrice de l'émission Objectif Vert, les temps s'égrènent vite. Djeringoua, comment analysez-vous cette actualité chaude, hein?
En tout cas, je pense que vous avez presque tout dit. C'est une initiative à encourager, mais c'est pas la première. Les États généraux, ce sont pas les premières de tout ça, mais ce qui est louable au moins. Nous avons vu le ministre d'État, ministre de la Justice, faire le tour de quelques provinces du pays pour recueillir les données et tout cela.
Surtout dans les prisons, les désengorgements, et avec tout ce qu'on a vu dans l'actualité, libération et non conditionnelle, tout ça, voilà.
Exactement. Et si nous nous rappelons bien, comme ma consoeur Ferra l'a relevé. Et il n'y a pas longtemps, nous vivions la saga juge, magistrat et le ministre d'État. Le président chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, l'a dit, la justice congolaise est malade. Okay. Ben, et il y a aujourd'hui quand même quelqu'un qui a pris des initiatives louables, faire un peu le ménage dans l'appareil judiciaire et tout cela. Mais qu'est-ce que nous avons vu? L'histoire a été politisée au point où, comme il l'a mentionné à l'ouverture des travaux, il a dit « Si je n'avais pas le soutien du chef de l'État, j'aurais démissionné. »
Même à la rentrée du judiciaire, le ministre a été attaqué.
Exactement. Donc, vous comprendrez qu'ici, qu'il y a un mal profond où il y a un groupe quelconque ou certains de trucs qui ne veulent pas que les histoires changent. Et comme vous avez relevé, l'État repose sur sa justice. Aujourd'hui, allez faire du sondage. Poser la question sur le maximum de la population congolaise, combien ont confiance en la justice? Même de ceux qui se disent intouchables, ceux qui sont forts, ceux qui sont puissants et qui peuvent briser la loi, la réglementation à leur vouloir, n'ont pas confiance en cette justice. Ils ont seulement un outil qu'ils peuvent utiliser pour et passer cela.
De l'argent et puis les relations.
Oui, de l'argent, les relations et tout cela. Ben, pas plus longtemps qu'hier, j'étais dans une discussion avec quelques personnes des organes sécuritaires et nous étions en train de discuter sur les états généraux de quoi. Il y a eu des révélations énormes. Il n'y a pas plus longtemps, nous avions les problèmes de bouchons qui étaient presque résolus, le bâchage des plaques d'immatriculation et tout cela. Ben, savez-vous que on a utilisé cela pour, on a utilisé la justice pour faire taire certaines de ces têtes qui étaient en train d'essayer de remettre de l'ordre. Et c'est comme cela que nous allons, au gré des vagues.
Comme on dit, la justice élève une nation. Espérons que les résolutions qui seront prises vont être suivies et appliquées sur le terrain pour que le peuple, la population, voie un changement notable.
Ben, et si, à moi, à ce point-ci, j'ai demandé l'application des résolutions des travaux de Mwanda, par exemple. Et aujourd'hui, nous allons rajouter les résolutions, les mesures prises après ces états généraux. Donc, l'application de résolutions prises doit être effective.
Jack Fouraïcha, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Kalemi.
Merci aux confrères qui sont dans les divisions.
Merci également à vous, chers confrères, qui êtes ici au studio. C'est par ici que s'achève ce numéro de la Tribune de la Presse. Tati Mapoku, c'est moi qui l'ai présenté. Kelly Koutet s'est occupé de la coordination de ce numéro. Martin Seboujangwe l'a supervisé et Paul Badianyama était à la prise de son. Prenez soin de vous et excellent début de week-end à tous et à toutes.